Frères et sœurs, l'été est l'occasion pour notre communauté, pour notre assemblée, de se parer de nouvelles couleurs, de nouveaux visages. Des personnes qui ne savent pas forcément à quel point ici à l'oratoire, chacun est vraiment choyé. C'est ainsi que, aujourd'hui, je vous permets de ne pas avoir à souffrir ce qu'ont enduré les jeunes londoniens, obligés de veiller dehors dans le froid, quasiment la famine, pour pouvoir bénéficier du dernier épisode de Harry Potter. Oui, en effet, les textes bibliques valent mieux que cette saga de Harry Potter par bien des aspects, et c'est la raison pour laquelle j'ai retenu ce matin, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 28, à partir du verset 4, quelques versets que nous pourrions intituler « Saül, Saül et les reliques de la mort ». Voici ce que dit ce texte biblique. Les Philistins, qui sont les ennemis d'Israël, les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül, qui est roi d'Israël, rassemble tout Israël, et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Ourim, qui était un petit dispositif pour interpréter la volonté de Dieu, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent, de nuit, chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir? Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant. Il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais dis-moi ce que tu vois. » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il ? » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. » Et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi ? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. » L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül. Et le voyant très effrayé, elle lui dit « Voici, ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante et laisse-moi t'offrir un morceau de pain afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. » Mais il refusa et dit « Je ne mangerai point. » Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il se rendit à leurs instances. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer. Et elle prit de la farine, la pétrit et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs, et ils mangèrent. Puis, s'étant levés, ils partirent la nuit même. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans notre recueil de chants, louanges et prières, au cantique 372, je vous invite à chanter les strophes 1, 3 et 6 de ce cantique 372 qui évoque l'atmosphère de solitude et l'atmosphère nocturne. Éternel, notre Dieu, donne-nous d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Pour cela, accorde-nous la grâce du silence intérieur, pour qu'à travers ces paroles humaines, ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Accorde-nous ton esprit pour que le passage biblique que nous avons écouté devienne une parole qui nous aide à mieux nous comprendre, à mieux comprendre notre vie et à mieux te comprendre. Chers frères et sœurs, nous pouvons certainement expliquer le succès international de la saga Harry Potter avec les mêmes arguments que nous pourrions utiliser pour le succès international et multigénérationnel des textes bibliques, en raison des thèmes qui sont traités, abordés. L'amitié, l'enfance, l'éducation, nos systèmes de fidélité, la violence et la mort, un thème qui, évidemment, nous concerne tous. La mort est précisément ce dont il est question dans ce passage du livre de Samuel qui met en scène le roi Saül, qui se sait condamné à l'approche de l'armée des Philistins. Il pressent qu'il ne lui reste plus que quelques heures à vivre, et cette mort imminente l'obsède. La mort l'obsède tellement qu'il en vient à commettre l'impensable, l'irrationnel par excellence, en demandant à entrer en contact avec un mort, alors que cela est non seulement formellement interdit par les prescriptions divines, mais par Saül lui-même, comme la sorcière d'Endor le rappelle. Alors évidemment, il nous est facile de condamner Saül et son attitude assez hasardeuse. Mais avant de le condamner en le traitant de renégat, d'homme de trop peu de foi, peut-être peut-il être intéressant de le laisser nous parler. Laissons-le nous interpeller un peu sur notre propre angoisse face à la mort. Laissons-le mettre quelques mots, quelques attitudes sur ce dont nous sommes capables ou ce dont nous serions capables en pareille situation. Avant de lui jeter la première pierre, Laissons-lui le soin de révéler la poutre qui barre notre horizon, notre regard, et nous rend prompte, évidemment, à le condamner du haut de notre rationalité, bien trempée par un protestantisme intransigeant sur ces questions métaphysiques. Saül n'est pas notre contemporain. Son espérance de vie ne côtoie pas les 100 ans. Tout au mieux, peut-on espérer atteindre les 50 ans à son époque. Un enfant sur 3 meurt à la naissance. La plupart des maladies sont incurables. La mort est omniprésente. On vit avec. Les deuils sont fréquents, nombreux. Ils font partie intégrante du quotidien. Et finalement, l'art de vivre, c'est l'art de survivre. Alors pourquoi hésiter à négocier avec tout ce qui est à notre disposition en pareille situation ? De nos jours, les choses ont bien changé sur tous ces aspects du bios, de notre physique, de notre capacité à entretenir et à soigner nos maladies, à prolonger l'espérance de vie. Nous avons changé d'horizon dans un monde à la vie longue, plus longue. Nous ne voulons plus rien concéder à la mort. Et finalement, nous en venons au même résultat. Lorsque la maladie pointe le bout de son nez, qu'elle touche un proche ou nous atteint personnellement, eh bien, nous perdons un peu de notre superbe. Et les observations faites sur le travail du deuil montrent qu'une des phases de ce deuil consiste à négocier. Trouver des solutions pour que l'inéluctable n'arrive pas. Et pour éviter la mort, nombreux, et nous avec, sont ceux qui sont prêts à transiger avec les convictions les plus assurées. Nous sommes prêts à faire des concessions pour peu que la mort s'en aille. C'est bien connu, en protestantisme, on ne prie pas pour les morts. Alors vous imaginez, leur parler. Et c'est pourtant ce que fait Saül, le premier roi d'Israël, le premier messie de la Bible, dans ce chapitre qui est l'un des derniers le concernant. Dans peu de temps, Saül va mourir, vaincu par les Philistins, rejeté par Dieu à qui il n'a pas obéi. Acculé à une mort certaine, Saül a de quoi être désemparé. Il va finalement jeter ses dernières forces, porter ses derniers espoirs auprès d'une sorcière, comme d'autres peut-être, et serrer encore un petit bout de médecine parallèle en dernier recours. Le texte biblique dit que cette sorcière est efficace. Sa pratique fonctionne. Ça ne nous arrange pas très bien du haut de notre rationalité. Le texte dit que cette sorcière est efficace, qu'elle arrive à faire remonter Samuel du séjour des morts pour parler, encore une fois, à Saül. Et puis le chapitre se termine sur le dernier repas du Messie Saül. Alors évidemment, tout cela semble bien anecdotique et finalement peut-être aussi fantaisiste qu'une saga à la Harry Potter. Mais celui qui prendra le temps de compter les mots des deux livres de Samuel se rendra compte que ce passage se situe à l'exact milieu de cet ensemble littéraire. Alors peut-être cela mérite-t-il que nous y prêtions un peu plus d'attention. Revenons à Saül et à ce qu'il nous dit. Comment lui en vouloir, au seuil de la mort, de tout mettre en œuvre pour l'éviter ? Évidemment que Saül nous parle, et évidemment que ce qu'il nous dit ne nous plaît pas forcément, parce que nous ne prenons aucun plaisir à nous confronter à notre propre mort. Mais il nous interroge sur notre propre réaction en pareille situation. Ne serions-nous pas prêts à agir de même si nous avions l'intuition que cela pourrait être quand même peut-être un peu efficace ? ne serait-ce qu'avec 1% de chance. Qui rejeterait ce 1% de chance d'échapper au terme ultime qu'est la mort, quand tout semble fichu, même si cela suppose de se confier au surnaturel? D'autant plus que, de nos jours, nous n'apprenons plus à vivre en compagnie de la mort, comme je vous le disais. D'autant plus que, de nos jours, la mort s'est réfugiée au fond de quelques services hospitaliers qui nous permettent de ne plus la voir sous les yeux, en permanence. Alors, refuserions-nous un petit coup de pouce de l'au-delà? Refuserions-nous un petit coup de main de quelqu'un qui reviendrait du séjour des morts et qui pourrait nous apprendre sur ce qu'est l'au-delà, sur une sorte de savoir que nous n'aurions pas à notre disposition et qui nous permettrait peut-être de lutter plus efficacement contre la mort? Après tout, l'espoir est le suivant, se dire que ceux qui ont franchi cette frontière de la mort savent comment faire pour l'éviter. Ils ont peut-être le secret de l'immortalité. Vous voyez, cet épisode, aussi étrange que mystérieux, n'a rien à envier aux aventures du sorcier Harry Potter. Il a ce mérite de nous rendre attentifs à nos élans naturels, à nos réactions spontanées en cas de coup dur, non pas pour les condamner, mais pour les mettre en évidence et pour nous préparer peut-être à mieux faire face à ce genre de situation lorsque c'est à nous de les affronter. L'au-delà n'a jamais cessé d'intéresser l'humanité. Aujourd'hui encore, les théologiens sont interrogés sur l'au-delà, comme si nous, pasteurs, nous avions des tuyaux, comme si nous en savions un peu plus que les autres. Et quand les théologiens répondent avec honnêteté qu'à moins de spéculer, le mieux est de suivre ce précepte de Ludwig Wittgenstein, ce qu'on ne peut dire, il faut le taire, eh bien on consulte ceux qui disent manier le paranormal. Ici, évidemment, nous avons beaucoup mieux que cela, puisque nous avons Samuel en personne qui remonte du séjour des morts. Nous avons quelqu'un qui a fréquenté le Shéol. Nous avons un témoin de première main, non pas quelqu'un qui spéculerait, mais quelqu'un qui aurait expérimenté en son fort intérieur ce qu'est cet au-delà de la limite. Que nous apprend-il ? À rien qu'il n'ait déjà dit, à rien qu'il n'ait déjà enseigné. À Saül qui l'interroge sur son avenir, Samuel n'a rien de plus à dire que ce qu'il a déjà annoncé et largement rabâché du temps de Saül, du temps où il était son prophète. Autrement dit, celui qui passe par le séjour des morts n'est pas détenteur d'un savoir supplémentaire. Le texte biblique, en mettant en scène cette situation et en essayant de promouvoir cet enseignement, est dans le registre de la métaphore, évidemment. En essayant de désamorcer cette question de la communication avec les défunts, du surnaturel. Vous voyez que le texte biblique n'entre pas en opposition frontale avec cette idée selon laquelle on pourrait communiquer avec les défunts. Il désamorce la situation en disant « Après tout, je ne sais pas, peut-être, mais à supposer qu'une communication soit possible, de toute façon, elle ne nous apprend rien. Elle ne nous sert à rien. » Il y a aussi une forme d'honnêteté vis-à-vis des auteurs bibliques. Cette honnêteté de dire que l'autre côté de la barrière n'est pas de notre ressort. Mais en revanche, ce que l'on sait, c'est qu'il n'y aurait pas un savoir disponible de l'autre côté dont nous serions privés ici-bas. C'est aussi ce que nous avait appris il y a quelques semaines l'épisode de l'homme riche et de Lazare dans l'Évangile selon Luc. Nous avions découvert qu'un ressuscité d'entre les morts n'apporterait rien de plus que Moïse et les prophètes. Une fois de plus, la Bible nous recommande de ne pas porter d'espoir insensé en direction de la mort. car la mort ne résout pas les problèmes. C'est ici et maintenant que Dieu se révèle dans sa plénitude où, pour le dire dans des termes peut-être un peu moins religieux, nous avons tout à disposition, ici et maintenant, pour réussir notre vie. Parce que c'est cette vie-là qui compte. Au moment où tout chavirait autour de lui, que son épouse mourait, c'était bien là l'intuition du philosophe Paul Ricoeur, qui disait finalement, je crois de plus en plus qu'il faut se désinvestir du souci de la vie après la mort pour se poser le problème de la vie avant la mort. Et c'est bien là que le texte biblique veut nous emmener. Certes, la mort nous éduque. Toute situation qui nous confronte à la mort nous aide à mieux apprécier la vie, finalement. Tout deuil, toute situation de deuil nous aide à savoir ce qui compte vraiment dans la vie et ce qui est accessoire. La mort nous aide à discerner ce qu'est la vie authentique et ce qui n'est que préoccupation futile. Mais la quête d'une connaissance provenant de l'au-delà est sans cesse disqualifiée, parce que l'au-delà n'ajoute rien à ce que nous avons à notre disposition ici et maintenant. Et même, le texte biblique va jusqu'à nous dire que cette obsession de l'au-delà, ou cette angoisse de la mort, ce concept d'angoisse de la mort, nous empêche de vivre la vie présente. Soit en nous faisant fuir ce monde, soit en nous conduisant à nous terrer, un peu à la manière de l'autruche. Et pourtant, ce monde, c'est celui dont nous avons rappelé qu'il est aimé de Dieu. Que c'est le monde dont Dieu prend soin, qu'il continue à créer le monde dans lequel il nous appelle à prendre notre place. Le problème, ce n'est pas tant l'au-delà de la mort que la vie avant la mort. Et c'est ce que confirme la fin de ce chapitre. Saül sait qu'il va mourir dans quelques heures et il est d'autant plus abattu qu'il n'a pas mangé depuis 24 heures. À quoi bon se restaurer maintenant ? À quoi bon se mettre à table quand on sait qu'on va mourir dans les heures qui viennent ? Au fond, c'est la question de la sortie de la vie. Une question qui, un jour ou l'autre, nous traverse l'esprit. N'y a-t-il pas un moment où il faut arrêter les frais ? Un moment où on doit envisager de sortir tranquillement. Ici, ce n'est pas Saül qui trouve la réponse. D'ailleurs, en général, on ne trouve jamais soi-même la réponse à cette question-là. C'est la sorcière qui intervient. C'est la sorcière qui le contraint en préparant pour lui un repas digne d'un messie. La sorcière s'avère être une femme sage qui prend soin du corps jusqu'au bout, de même que Marie prendra soin du corps de Jésus avec un excès incroyable à la veille de son arrestation, en le couvrant d'un parfum fort cher. À la manière de la sagesse de l'Ecclésiaste, la sorcière affirme par ses gestes que chaque instant mérite d'être vécu. Au fond, il n'y a pas de cynisme ou de désespoir dans cette phrase « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Il y a une invitation à vivre le moment présent. Ce dernier repas du Messie nous invite à découvrir que chaque instant doit être saisi. Ce dernier repas du Messie le prépare à assumer ce qui lui reste à vivre. Cette finale nous dit aussi qu'un homme ne perd jamais sa dignité. Même rejeté par Dieu, il n'est pas abandonné. Même dans ces derniers instants, un homme reste un être humain. Il n'est pas un déchet ou un encombrant. Et n'est-ce pas ainsi que Jésus lui-même agit à la veille d'être arrêté, condamné et mis à mort ? Plutôt que fuir ou se laisser mourir, ce que Jésus met en place, c'est un repas. Il rassemble ses amis pour un repas qui va renforcer leur lien. Un repas fraternel qui sera précisément celui que nous partagerons tout à l'heure. Un repas qui nous fait découvrir que Dieu nous prodigue ce dont nous avons besoin pour assumer notre existence ici-bas. Un repas par lequel nous affirmons que nous faisons ce qui est nécessaire pour vivre, que nous prenons soin de notre corps, que nous prenons soin de notre existence, que nous ne nous jetons pas à terre comme le fait Saül, dans une sorte d'abandon, une sorte de déclin inexorable de la vie. Cette histoire biblique nous apporte des éléments qui peuvent aussi nous enrichir dans notre réflexion éthique autour de la question de la fin de vie. Lorsque nous nous interrogeons sur le bien fondé d'abréger ou non une vie qui, selon nous, ne ressemble plus à rien. Sur le bien fondé d'abréger ou non la vie de quelqu'un dont les jours ou les heures sont comptés. La sorcière, que l'on serait tenté de disqualifier parce qu'elle n'est pas en odeur de sainteté dans nos cercles, dans nos milieux. La sorcière, donc, s'avère être particulièrement préoccupée par la vie, bien plus que par la mort ou par l'au-delà. Et cette sorcière, elle me fait penser à cette dame rose qui va rendre le petit Oscar à la vie dans la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt. Alors qu'un enfant se sait condamné à mourir dans quelques jours, la dame rose, ce personnel employé par l'hôpital où il est soigné, va s'appliquer à ressusciter la vie et le désir de vivre chez cet enfant. Elle ne va pas lui faire miroiter une guérison ni même une rémission. Elle ne va pas non plus le noyer dans le chagrin de la mort à venir. Elle va le ramener à la vie en le considérant comme un vivant jusqu'au bout et en lui faisant vivre ce qu'il peut à la hauteur de ses moyens et de sa santé. Et en fait, bien plus que ce qu'il ne pouvait imaginer au départ. Et la sorcière d'Aindor agit de la même manière avec Saül. Et grâce à cette sorcière, un quart d'heure avant sa mort, Saül était encore vivant. Jusqu'à la mort, accompagner la vie, exhortait le professeur René Scherrer en mettant en place les soins palliatifs à Grenoble. Abréger les souffrances, oui, mais pas abréger la vie. Bien au contraire, lui redonner de l'éclat, une véritable dignité, dans la mesure du possible, alors même qu'il n'y a peut-être plus que quelques heures à vivre. Ce passage biblique est assez fantastique, assez étrange pour qu'on ait le désir de sauter par-dessus, considérant qu'il n'a rien à nous dire. Eh bien, le caractère fantastique de ce récit me semble être une bonne manière de dire qu'il n'y a pas un aspect de notre histoire qui serait sans Dieu. Qu'il n'y a pas un aspect de notre histoire où nous n'aurions pas les moyens de réfléchir et d'envisager des éléments de solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ce récit fantastique me dit qu'il n'y a pas une sorte de « no God's land » au sein du monde. Même les situations les plus odieuses ne sauraient constituer une terre délaissée par Dieu. Un espace entièrement marqué par la mort, où la puissance de l'amour divin ne pourrait plus se manifester. Ce faisant, ce récit justifie l'interdiction d'invoquer les défunts, en montrant que cela n'est qu'une manière de courir à la déception, une désillusion de plus, en espérant obtenir auprès d'eux ce qu'on n'arrive pas à obtenir des vivants. La seule fois où Saül parviendra à se lever, au sens d'être ressuscité, c'est lorsqu'il écoutera enfin ce que les vivants lui disent. C'est au verset 23, où se trouve justement le centre du livre de Samuel. Et c'était à cet instant précisément, que l'Éternel nous sauve de la mort. Amen.